Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Mon nom est Nicolas Lehoux, nous sommes à Montréal aujourd'hui dans les studios de Radio Centre-Ville et j'ai comme invité Pascal Jacob.
Allô!
Franck Billot.
Salut!
Et Malika Paquette.
Yay!
Et notre thème aujourd'hui est « Tout individu qui se contrôle se détruit. Tout royaume divisé contre lui-même périt. » Il est de mon avis que Saint Paul a foutu la merde quand il a fondé l'Église et je crois qu'il a très mal compris ce que Jésus a enseigné. Saint Paul nous a enseigné la dualité et toute l'Église est fondée sur la dualité. Le fait qu'on est divisé de Dieu, par exemple, qu'on est séparé de Dieu et tout notre éducation découle de ça. Alors comment peut-on se sentir un dans une société qui nous enseigne dès la prime enfance, même dès le sein maternel, à être divisé? Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, est-ce que c'était vraiment la pensée de
Saint-Paul?
De Saint-Paul?
Oui.
Ou est-ce que ça a été déformé par la suite?
Non, non, c'est Saint-Paul qui a déformé. 30 ans après que le Christ est mort, il a écrit. Et puis là, il n'était pas là, il ne l'a pas rencontré réellement. Mais lui, il l'a vu. Il y a eu une compréhension, mais à mon avis, il était misogyne. C'est à partir de là que la femme a été mise hors de ça. Parce que avant ça, si on regarde dans le paganisme, ce qui était avant, ce qui est le concurrent, il y avait la sexualité sacrée. La femme avait sa place, les déesses étaient au cœur de toutes les cérémonies. Alors que là, quand on arrive avec l'Église, c'est le paternalisme, c'est tous des hommes, tous les patriarches.
Mm-hmm. Et dans le paganisme, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a la femme et la nature. Et en fait, elles ne sont pas dissociées. C'est-à-dire que la nature, c'était quelque chose de divin, et la femme aussi. Donc c'est intéressant parce que avec l'évolution, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé après, avec l'appropriation a priori de Saint-Paul, enfin en tout cas c'est ce que tu avances, il y a cette division. Alors il y a cette division de l'individu vis-à-vis de lui-même, mais comme par hasard, il y a la division par rapport à la femme et par rapport à la nature. D'ailleurs aujourd'hui, on parle d'environnement, c'est un truc qui nous environne, c'est un truc autour de nous, qui ne fait même pas partie de nous, et ce n'est pas considéré en tant que tel. Et comme par hasard, notre civilisation aussi est complètement divisée de l'aspect féminin. Quand j'entends par aspect féminin, si on aime bien les femmes quand il s'agit de leur vendre des vêtements, quand il s'agit de leur vendre des ci et des ça, du maquillage et des produits pharmaceutiques, mais sorti de là, on s'en fout quand même un petit peu pas mal, quoi. Donc,
ouais, c'est que pour l'Église, la femme est un être faible. C'est à cause de la femme que
le péché
originel a dérivé. Ils se sont séparés du paradis. Ils sont devenus humains. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'habillent, qu'ils se cachent. Et c'est là que ça a commencé. C'est profond dans notre inconscient collectif. Il faut y penser, puis il faut avoir réfléchi à ça pour être capable de ne pas le subir dans notre société aujourd'hui.
Là où c'est encore plus, je trouve, pervers, c'est qu'il y a division par rapport à la femme, par rapport au féminin, mais c'est aussi le féminin en soi, c'est-à-dire que l'homme peut avoir, tout comme la femme peut avoir, a du masculin. Et donc l'équilibre, là déjà à la base, il est complètement rompu. Donc ça fausse tout le reste en final.
Et moi j'irais même jusqu'à dire que c'était voulu. C'est l'Église est venue ici pour diviser, elle n'est pas ici pour nous unir. Et son histoire nous le démontre. Elle a combien de génies, combien de saints ont été massacrés, combien de sorcières, des femmes qui aujourd'hui sont des médiums qu'on peut respecter dans une autre époque, qui sont brûlées tout simplement.
C'est un thème qui me rappelle aussi l'estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui sont divisés avec eux-mêmes. On parle de maladie mentale, schizophrénie et tout, il y en a qui entendent des voix, peut-être que c'est pas des voix, peut-être que c'est toi, t'es simplement comme ça, moi, je pourrais pas dire que je suis schizophrène, mais je pourrais dire que je me sens jamais seule. Exemple, tu sais, j'ai toujours l'impression que quelqu'un est avec moi. J'ai pas une dualité avec moi-même parce que je sais que je suis bien en dedans, là, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, me faire dire que peut-être que tu devrais prendre une pilule bleue, une petite pilule rouge pour savoir qui que t'es, là, c'est, je trouve ça absolument ridicule. Puis, les psychiatres ont mis ça à un niveau grave, là. C'est comme un enfant qui est hyper actif. On va lui donner plusieurs pilules pour le calme, pour le rendre plus calme, mais cet enfant-là, on le crée une certaine division entre lui-même parce qu'il est arraché, là. Il faut qu'il se trouve, là, savoir, OK, peut-être que c'est moi qui n'ai pas très bien ou c'est vous autres qui est trop là. C'est vraiment ça. Puis habituellement, je veux pas me vanter, mais habituellement, un enfant hyper actif ou très... qui dégage beaucoup... est beaucoup plus avancé que le reste du monde. C'est juste que les gens sont effrayés par le fait que l'enfant en sait plus. Il n'y a aucune dualité en dedans. Et là, à l'école, c'est ça qu'ils en enseignent, là. C'est vraiment, non, vous devez, ce que nous, les professeurs disent, c'est ça qui est bon, là.
Et tu vois, j'aime bien que tu amènes ce thème-là. Ça nous ramène vers le thème qui est le contrôle. Et c'est une forme de contrôle que moi, je n'ai aucun respect. C'est-à-dire, ces enfants trop intelligents, dont je fais partie, je sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai pas eu de Ritalin. À l'époque, c'était pas la mode. Et puis, j'ai fait attention pour pas faire trop de vagues, mais j'en ai rencontré, maintenant, qui sont sur le Ritalin depuis 10 ans. Puis, c'est un cul-de-sac.
Ouais.
C'est une préparation pour après... je veux dire, on apprend aux enfants à prendre ces pilules-là pour que, quand ils sont adultes, ils sentent qu'il y en a... Il y en a besoin, donc ils vont commencer à acheter des antidépresseurs. Et c'est comme j'en connais, ils ont 40 ans qu'ils sont encore sur ces foutues drogues. Et on ne les a pas appris à être des adultes. On leur dit, ben, ferme ta gueule. C'est un peu horrible,
mais
je trouve.
C'est même plus que...
Oh, c'est une forme de contrôle.
C'est le contrôle de ce que tu es. C'est la pire affaire au monde. Parce qu'à un moment donné, l'enfant arrivé adulte, il va éclater, là. Ça va être trop... Il va tout avoir comprimé en dedans, puis à un moment donné, ça va sortir. Puis là, les gens vont dire, ben c'est parce qu'il était fou, c'est un tueur en série. Mais il était pas fou, il était juste trop en avance de ce que vous êtes. Fait que personnellement, je pense que les gens, habituellement, ceux qui se disent normaux, là, ont une dualité en partant parce qu'ils se donnent une limite. Ah, peut-être que je devrais pas agir comme ça, les gens vont croire que je suis une bonne personne. Dans mon langage, avant, ça s'appelle être fake, là, dans mon langage. Là. C'est quelqu'un qui n'est pas lui-même, mais pourtant, en dedans, il est déchiré.
Ça me fait penser, moi, ça me fait rebondir sur cette citation de Krishnamurti que j'adore. C'est « Ce n'est pas un signe d'intelligence que d'être bien dans une société malade. » Et je trouve que ça illustre parfaitement ça, dans le sens où, effectivement, ces enfants qui vont être éveillés, qui vont se poser des questions par rapport à l'environnement, puis vont dire « Au final, c'est peut-être moi qui ne suis pas bien. » Mais non, c'est juste probablement même, certainement même, l'environnement qui lui-même étant complètement, complètement fucké. Et donc, la personne, par rapport à ça, elle n'arrive plus à retrouver ses repères. Il y a eu des films aussi, certains films qui ont utilisé cette thématique de ces gens qui pètent les plombs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une vie pendant 10 ans, 15 ans, entre guillemets, tout à fait normale, puis tout d'un coup, ils vont flinguer leur famille. Il y a eu un film, je crois que c'est avec Daniel Auteuil là-dessus, où justement, il remplit dans son quotidien le rôle d'un gars qui bosse dans une grande entreprise ou un gros organisme, puis il fait croire que tous les matins, il s'en va dans cette entreprise-là ou dans ce gros organisme. Et puis... les années passent et il y a un moment où il pète vraiment un plomb et puis on arrive à découvrir, il y a certaines personnes qui arrivent à découvrir là, son jeu et il pète un plomb et il flingue sa famille quoi. Et puis c'est pas un cas isolé, ça arrive souvent qu'il y ait des gens comme ça, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup pouf. C'est le résultat du contrôle, alors qu'importe après comment il se manifeste ce contrôle, mais c'est une conséquence.
Ouais, par exemple, au premier niveau de la pensée, on va descendre au premier niveau. Okay. Vous connaissez tous des gens qui ont des problèmes de poids et qui vont faire des diètes miracles. Ça, c'est une forme de contrôle. pendant un certain temps, il mange presque rien, il s'affame, et puis qu'est-ce que ça fait? Il va perdre le contrôle à un certain point. Alors que moi, je crois que le plus intelligent, c'est de prendre la maîtrise de la situation, puis de donner quelque chose jusqu'à la fin de tes jours, une genre de balance, au lieu de faire des hauts puis des bas. Et moi, justement, je ne cherche pas à me contrôler, mais plutôt à maîtriser ce que je suis. Puis c'est déjà, quand on dit on est maître de soi-même, c'est qu'on n'est plus comme, on ne subit pas les émotions.
Et pour les auditeurs ici, je parle un peu plus fort, c'est vrai. Pour les auditeurs qui nous écoutent et auditrices, qu'est-ce que c'est pour toi, Nicolas, de maîtriser à place de contrôler?
Ben, tu sais, il y a l'idée du maître, de quelqu'un qui sait. Alors que le contrôle, c'est juste comme, il faut que je fasse ça, il faut que je veux. À mon avis, ça empêche d'assouvir tes désirs. Le contrôle, c'est dit, je me sens coupable, je veux pas le faire, puis alors que oui, je voudrais la manger, cette foutue crème glacée.
Le contrôle est répressif. Ouais, c'est-à-dire que ce soit vis-à-vis de toi-même ou des autres vis-à-vis de toi, c'est répressif. C'est-à-dire je t'interdis de ou je... Tu vois, c'est vraiment très, très catégorique. Alors que la maîtrise, il y a la notion d'acceptation et puis de dire je fais ça parce que j'ai vraiment envie, parce que ça va m'amener à ou ça me permet de...
On va y revenir tout de suite après la pause. On va passer avec une chanson de rap. J'ai oublié la personne qui chante, mais le titre, c'est « Diviser pour régner ». Ça va très bien avec l'émission. Et puis, on revient après la pause avec ce thème. Tout individu qui se contrôle se détruit.
You're now listening to the sounds of Ego Beats.
La masse du monde entier subit un contrôle mental. Pour contrôler, rien d'expérimental. Ils jouent avec la bourse pour nous tester. Ils veulent détruire l'humanité jusqu'à temps qu'il en reste un. Trône intolérant, croissant, riche et en volant. Ils ont mis le crack dans le hood, ils l'ont rendu plus violent. Les armes ont changé, on est loin de l'époque de l'art. Ils contrôlent les intempéries avec la harpe. Ils créent des cataclysmes, règnent des villes sur la carte. Ils te regardent dans Google Maps, ils connaissent ton appart. On veut tous être sous la couverture de Forbes. Une seule chose est sûre, on finit tous à la mort. Les réseaux sociaux sont devenus des banques de données. Bref, ils connaissent tes gestes, tes habitudes, tes coordonnées. Mais avant, pourquoi pas établir des dialogues? Finalement, la vie pour eux, c'est qu'une question de corps. Contrôlée par les médias, les faits et immédiats. La vérité est pas écrite dans Wikipédia. Ils créent des attentats pour manipuler l'opinion publique. Ils financent leur parti politique avec le drone trafic. Les sacrifices n'ont jamais cessé. Ils veulent que vous vous taisiez. Ils utilisent toutes sortes de moyens pour nous abaisser. Ils veulent juste nous baiser, nous enfoncer la patte graissée. Je me suis réveillé, je tannais de me faire niaiser. T'as vu les films maintenant, ont moins de profondeur. Pour nous nourrir, mélange n'importe quoi dans le tordeur. Ils dégagent des produits chimiques dans le ciel en avion moteur. Ils veulent qu'on croit que c'est chacun pour soi, pas de colporteur. De nos jours, système corrompu, partout y'a des corrompus. Ils abandonnent le peuple comme une grossesse interrompue. Ils nous mentent et ils disent qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais quand c'est rendu pour le peuple, l'argent est disparu.
De retour à Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Tout individu qui se contrôle se détruit ». Alors, Malcolm a posé une question juste avant la pause. J'ai continué d'y réfléchir parce que c'est une extrêmement bonne question. Et ma réponse, ça serait que le contrôle, à mon avis, c'est quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, on va essayer de mettre un contrôle. Et même toi, par exemple, tu as un désir, tu dis « je vais me contrôler ». C'est comme, c'est une force. Tu es obligé de forcer pour pas faire cette chose-là. Alors que la maîtrise, il me semble que c'est quelque chose d'intérieur. Tu n'as pas besoin à forcer. Tu es en totale maîtrise de ton corps, de ta personne, de ce que tu es. Donc, c'est facile, tout coule. Moi, je le vois dans mon art, en tout cas.
Moi, je trouve que le contrôle, c'est caractéristique aussi de peur. Il y a une peur toujours autour d'un contrôle. La maîtrise, il n'y en a juste pas. C'est la liberté, la flexibilité d'avoir le choix de faire ce qu'on veut.
Ben, c'est ça. Il y a aussi la peur, puis ça vient de la culpabilité. On sait se sentir coupable de faire quelque chose, donc on va se contrôler pour pas le faire. Mm-hmm. Puis de toute façon, ça va finir par éclater. Si t'aimes quelque chose, Moi, je pense que c'est plus... Si t'aimes l'alcool, par exemple, je pense que c'est plus intelligent de le boire intelligemment, mais quitte à bénir quand tu bois, que de ne pas boire du tout. Puis que tout d'un coup, là, tu perds le contrôle, puis tu dérapes, puis t'es plus capable d'arrêter. Moi, je suis plutôt du style à, par exemple, m'acheter du pot une fois par 3 mois. Je vais fumer 2-3 semaines, et puis après, j'arrête pour 3-4 mois. Et moi, j'aime ça parce que je me sens pas je me sens pas dépendant. Je peux acheter un paquet de cigarettes pour une fête que je vais faire, puis je vais fumer cette journée-là, mais je n'aurai pas le goût nécessairement de fumer les autres jours.
C'est ça. Puis, dans le fond, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on se contrôle, tu l'as dit toi-même, Nicolas, il y a une forme de culpabilité quand il y a un déséquilibre dans l'illusion d'avoir le contrôle. Et c'est là que la culpabilité est le plus grand poignard, la plus grande arme qu'on peut se faire à soi-même, parce que la peur, c'est simplement... une motivation, un genre de... C'est une épice, mais la culpabilité, c'est quand tu mets ton œuf de trop, ta farine de moins dans la recette qui ne fait pas lever le pain, par exemple.
Ça gâche tout. T'sais, quelqu'un qui fume avec plaisir, il va retirer une jouissance, alors que lui qui fume en se sentant coupable, pourquoi il fume? Dans le fond, c'est très négatif. Il fume... Puis finalement, il n'est pas heureux de lui-même, il n'est pas fier. Donc, ces gens-là ne devraient pas fumer. Alors que si tu es capable de déguster quoi que ce soit la femme de ta vie, ton déjeuner, entrer, tu sais, dans un lieu public, si on est capable de qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas se contrôler? Bien, on se laisse être. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas non plus beaucoup. On nous apprend le laisser aller dans la société, se laisser aller. Mais le laisser être, c'est justement de s'écouter. Et puis, ben, si tu as le goût de manger quelque chose de particulier ou de faire une certaine folie, tu la fais, mais en conscience.
Ouais. Ça me rappelle vraiment ce que tu avais... Ce qui, dans un de tes livres, Le bonheur absolu, tu parlais de l'abondance. Il n'y a rien de mal à tout prendre, mais de manière, comment je peux dire ça, sans déborder, mais avoir une abondance émotionnelle. Tu sais que tu le veux vraiment et c'est bon et tu en jouis, là, vraiment. Là. Il n'y a rien de mal, mais lorsque tu veux contrôler cette abondance, là, c'est fini, là, c'est rendu trop, il y a comme trop. Tu as comme un vomissement de vie, genre, je pourrais dire. Mm-hmm. C'est comme, tu as trop de choses. Là, fait. Une abondance qui est bien, qui est bonne et qui te fait plaisir, il n'y a rien de mal là-dedans. Si tu essayes de contrôler ça, tu as une dualité avec « je suis coupable, je me sens mal » ou le stress extérieur. Qu'est-ce que les autres personnes vont penser de ce que je fais? Là? Je pense que c'est toujours mieux de se laisser aller. Là.
Ça, c'est une phrase clé. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça, c'est quelque chose qui divise beaucoup, beaucoup de gens et je dirais la majorité. J'ai rencontré très peu de gens qui sont capables de dire comme moi « non, merci ». Moi, je l'ai dit rapidement et avec force. Je suis un BDiste, je suis un artiste et je veux vivre comme un artiste. Et je l'ai dit très rapidement, puis je n'ai pas été compris. Puis on a tenté de me contrôler. Aussi, je veux dire, quelqu'un comme moi, ça rentre pas dans le cadre. Tu sais, techniquement, depuis la maternelle, on t'enseigne à quoi? À 9 à 5 tous les jours. Tous les jours pour t'habituer que quand tu vas au lieu, tu es mieux de faire la même chose. Mais moi, j'ai dit non. Vous m'avez forcé, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, mais là c'est fini, foutez-moi la paix. Je veux pas me contrôler, je me suis laissé être. Ouais. Et puis, bon, tu vois, après 10 ans, j'ai senti l'inspiration de travailler et je le fais maintenant avec plaisir. Et je travaille bien, j'aime ce que je fais, je suis inspiré et c'est facile.
Moi, je crois que la pire destruction, personnellement, c'est quand un être n'explose pas. Okay? Je ne veux pas dire que c'est bien que des maris tuent leur femme ou vice-versa, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand une personne devient un zombie un peu, là, et qu'elle n'a même pas vu, elle n'a même pas été capable de jouir de sa vie pleinement ou même à moitié, même un quart, parce que, bon, dans le fond, il y a eu questionnement peut-être ou obstacle. Pour essayer d'être pareil au reste de la troupe, de la meute, du moule, du cadre. Mais du coup, elle a réussi, elle pense d'avoir réussi, cette personne-là, cet individu, d'enfin avoir accédé à, on pourrait dire, comment je pourrais l'appeler, un peu l'accord collectif du moule. Bon, maintenant, tu as un emploi, tu es syndiqué, ça fait 30 ans, tu es stable. T'sais. Et au contraire, moi, je trouve que c'est pas... Par exemple, c'est une personne qui est très, très heureuse d'être syndiquée, puis avoir tant d'enfants.
C'est ça, il y en a qui vont être très heureux là-dedans.
C'est correct. Je veux juste dire que pour d'autres personnes qui n'exploseront jamais de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est le vrai danger parce que quand on n'explose pas, je pense qu'il y a quelque chose qui se fissure, là. C'est plus une explosion, c'est quand it's a burst, like, c'est quelque chose qui explose, qui va de l'externe dans l'extérieur, mais se fissurer, c'est totalement dans l'âme.
Et ultimement, ça mène à la mort. Quelqu'un qui est très malheureux, ça va le gruger de l'intérieur, ça va se donner un cancer.
Pour illustrer là justement ce que tu viens de dire, Malika, il y a un film qui est très bien. Je me souviens plus du titre de ce film, mais c'est un film qui était sorti il y a quelques années. C'était avec Michael Douglas. Et à un moment, là, il a une vie bien pépère, toujours dans le même esprit de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et tout d'un coup, il pète un câble, il prend son gun, là, son fusil, puis il tire à tout va. Mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a un moment, bon, ben voilà, tu essayes de rester dans le cadre. Alors c'est vrai, comme tu le mentionnais, il y a des gens pour qui ça convient très bien, et puis c'est tout à fait correct. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est le contrôle permanent et continu. Et quand ces personnes n'expriment pas ça, ça se retourne contre eux. Ce qui me fait penser à ça, quand je suis allé en Afrique, j'ai rencontré beaucoup de cas de femmes qui sont souvent violentées dans le cadre de leur vie maritale. Et souvent, alors, quand on leur demande « Mais comment ça se fait que tu restes là ?» Oui, mais c'est pour les enfants. C'est-à-dire qu'on va prendre un prétexte, X ou Y, et puis bah, parce que les enfants, parce que peut-être la pression sociale ou autre, et donc tous les prétextes sont bons pour endurer et endurer et endurer et endurer ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en en fait, elles renforcent leur position de victime, puisque le mari violent n'a pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et en plus, non seulement elles ne se rendent pas service à elles-mêmes, mais en plus elles ne rendent pas service à leurs enfants qui vont voir leur mère comme ça.
C'est des générations,
ça. Et puis qui vont certainement reproduire les mêmes contextes plus loin. Donc, est-ce que c'est ce qu'on peut aller là jusqu'à dire c'est du contrôle? Oui, c'est peut-être du contrôle en disant, bah oui, je vais rester là et puis j'ai contrôlé mes émotions, puis rien dire, puis encaisser. Mais c'est totalement autodestructeur, c'est totalement dangereux et suicidaire même.
Tout à l'heure, tu disais, Malika, qu'il y en a qui sont bien là-dedans, dans leur zone de confort et tout, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est jusqu'à ce que quelque chose arrive. Et là, ils commencent à paniquer. Meilleur exemple, c'est les gens qui perdent leur emploi après 40 ans. Capotent, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils sont jamais allés en dehors de leur zone de confort, tu sais, d'avoir un plan B. Ça arrive, j'ai ça. Je pense que être bien, c'est beau, mais s'ouvrir à autre chose, c'est mieux, là. C'est d'être préparé pour si quelque chose arrive. Je pense pas que quelqu'un peut faire sa vie en contrôle jusqu'à ce que mort vienne. Là.
Mais pour ça, il faut qu'il soit un. Et donc, il faut qu'il apprenne à se dire oui et dire non parfois aux gens que t'aimes. Il y a des choses qu'on me propose souvent, puis c'est des gens très proches de moi, mais je suis capable de dire non, ça ne me tente pas. Mm-hmm. Et ça va me diviser, je le sais. Par exemple, je n'aime pas sortir de Montréal. Il faut vraiment que ça soit une très, très, très bonne raison pour que je sorte. Que ça... Et souvent, ça n'en est pas une, puis on va me reprocher de ne pas faire plaisir, mais je préfère m'écouter.
C'est ça, faire plaisir, c'est...
Je ne me divise pas, je reste sur mon terrain. Moi, je pense qu'il y a une partie aussi de dire, je suis chez moi, puis pourquoi... Regardons dans mon propre jardin qu'est-ce que je peux faire, le maximum que je peux faire. Avant d'aller ailleurs voir le monde, moi, je veux regarder mon propre jardin. Mais c'est déjà tout pour aujourd'hui, c'est la fin de l'émission, et on... Oui, déjà.
Parce qu'elle est comme « déjà ».
Ça passe très vite. Hein? Alors, on vous invite à venir écouter nos émissions en podcast sur Radio H2O ou même sur notre site internet, propossurlebonheur.com. Et finalement, revenez la semaine prochaine. Nous allons être au rendez-vous.
Bye!
Au revoir.
Bye.
Salut!
Pour mieux nous arnaquer. la carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale ne peut se conjuguer que dans l'unité. Le totalitarisme xénophobe mènera à l'adversité. Avec son corollaire de colère généralisée, toutes les atrocités dans la cité. Sans péril, en triomphe sans gloire. Vos lois fébriles nous poussent au désespoir. Je refuse l'exil, car Dieu est ma gloire. Je refuse l'exil, car Dieu est ma victoire. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale, la paix civile ne peut se réaliser que dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité.